Il ne faut en aucun cas laisser les gouvernements écrire seuls l'histoire.
Algérie, le soulèvement d'août 1955.
Près de 2000 indigènes sont descendus des montagnes et qui ont attaqué le village de tous les côtés. Ils ont attaqué le village au fusil, à la hache, au couteau et à la dynamite et partout. Ils ont tué, ils ont trouvé tous les gens dans les maisons, ils les ont tués, quoi.
On se souvenait du premier acte, les attaques groupées de la Toussaint 1954, mais au printemps, le début de l'été suivant, la révolution du jeune FLN s'avouait elle-même dans une impasse. À Alger, le nouveau gouverneur général, Jacques Soustelle, disposait non seulement de nouveaux crédits, mais d'une vision. Il proposait l'intégration à tous les habitants, il proposait un collège unique, quitte à amener 120 députés algériens au Palais Bourbon, et alors, disait-il. Algérie intégrée, Algérie arabo-musulmane, une course de vitesse était engagée. Le chef de la zone 2 de la rébellion décide de lancer des opérations simultanées le 20 août à midi dans des dizaines de localités du nord-est constantinois, en même temps qu'à Philippeville. Les actes commis, dit-il, doivent être irréparables. La répression attendue fera fleurir les martyrs et coupera l'envie à toute personnalité algérienne de devenir l'interlocuteur de l'administration française. Août 55, c'est un tournant important de ce qu'il faut maintenant appeler la guerre d'Algérie. Mais l'événement s'inscrit aussi en écho à une histoire autrement longue. C'est à bien des égards une réplique de Sétif, 1945. Un soulèvement alors spontané, une répression terrible. Et un siècle avant, c'était la guerre de conquête dont le FLN répétera que la guerre d'indépendance ne pourra jamais la dépasser en horreur.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Roger Vétillard, bonjour.
Bonjour.
Sétifien de naissance, un an avant mai 1945, est devenu, alors je prends mon élan, Quintot Fonce-Grivois.
Voilà, oui, Quint Fonce-Grivois.
Ah, Quint Fonce-Grivois, c'est mieux. Fonce-Grive.
Fonce-Grive.
À côté de Toulouse.
Voilà.
Où vous vous êtes installé après avoir quitté l'Algérie et où vous avez exercé à l'hôpital, puis en clinique, parce que vous êtes un médecin devenu historien, un livre sur Sétif, et puis ce livre aux éditions Rive-Neuve en 2012, consacré au 20 août 1955. En pré-générique, on entendait cette maxime, ne jamais laisser les gouvernements faire l'histoire. Si un jour une histoire commune de l'Algérie est possible, il faudra la purger des erreurs volontaires ou manipulatrices.
Oui, ben écoutez, on sait très bien que l'histoire est racontée et est écrite par les vainqueurs. Alors là, qui a été le vainqueur de cette guerre d'Algérie ? Bien souvent, ben on s'aperçoit qu'effectivement, la vérité que l'on nous assène vient de l'autre côté de la Méditerranée. Hein, donc on peut penser que les vainqueurs, bien, sont ceux qui sont arrivés à l'indépendance, quoi. Et donc, et c'est vrai aussi donc, pour 1955... Peut-être moins que pour 1945, dont vous avez parlé tout à l'heure. Mais donc,
spontané alors du 8 mai 1945. Mais avant que vous n'en veniez à 1955, on avait consacré, au moment de l'anniversaire de la Toussaint 1954, une restitution du débat parlementaire tel qu'il avait eu lieu au temps du gouvernement Mattès-France-Mitterrand. L'Algérie fait partie de la France, répétait le ministre de l'Intérieur Mitterrand, qui a nommé un nouveau gouverneur général, Jacques Soustelle, dont la nomination a été corroborée par le gouvernement suivant de la République française, celui d'Edgar Faure. Et alors Jacques Soustelle, c'est un homme gaulliste, ancien responsable de la France libre, et qui veut mener une politique à double volet, répression et contrôle, et intégration. Intégration, c'est pas l'assimilation. Toujours un débat aujourd'hui, ça, assimilation, intégration.
Oui, le débat est toujours présent. Hein. C'est-à-dire donc l'assimilation depuis 1871, hein, depuis l'avènement de la Troisième République, eh bien c'était l'assimilation républicaine, c'est-à-dire qu'on voulait faire des Algériens, des Français, avec les lois françaises, avec les coutumes françaises, avec la langue française.
Et Soustelle disait, vous n'êtes pas des Beaucerons ni des Marseillais.
Voilà, tout à fait. Et donc, à ce moment-là, donc Soustelle disait, ben, les musulmans algériens ont leurs coutumes, ont leur religion, ont leur justice d'ailleurs. Hein, même. Et donc, on ne peut pas en faire des Français comme tout le monde. Donc il faut en quelque sorte communautariser la société algérienne.
Sous l'ombre de la France, une fédération de groupes avec leurs us et coutumes. Il a un cabinet avec Germaine Tillion, bien connu maintenant de tous les Français, avec Vincent Monteil. Vincent Monteil, c'est celui qui est chargé par Soustel, ancien chef des services secrets de la France libre, de nouer des négociations avec des Algériens qui accepteraient cette politique d'intégration.
Oui, Vincent Monteil, c'est un, à ce moment-là, un chrétien progressiste, comme on disait, qui d'ailleurs, 20 ans plus tard, va rejoindre l'islam. Et il viendra Vincent Mansour Monteil. Mais bon, il est chargé, et dès le mois de mars, Soustelle arrive à Alger en février, et un mois plus tard, il arrive à réunir à Alger les différentes faction des indépendantistes ou autonomistes algériens, depuis Ferhat Abbas jusqu'à des gens qui sont du FLN, parce qu'il ne voulait pas exclure même les gens qui étaient dans le combat.
D'ailleurs, sont libérés par Soustelle 2000 détenus de la Toussaint 1954. Enfin, ces réunions sont secrètes. Et du côté du FLN, on sent la difficulté. Il y a la pression de l'armée française sur la zone 1, les Aurès, là où avait eu lieu la Toussaint. Il se passe pas grand-chose militairement dans les autres zones, on dira plus tard les Vilayas. Et le chef de la zone 2, Youssef, vous m'avez dit comment il fallait prononcer ?
Zirout.
Ouais. Youssef Zirout, il décide un peu seul de prendre l'initiative et de lancer une grande opération.
Oui, il faut dire que la guerre de libération algérienne lancée par le FLN le 1er novembre 1954 patine un petit peu. Il ne se passe rien dans l'ancien département d'Oran, c'est-à-dire à l'ouest de l'Algérie. Il ne se passe pratiquement rien dans l'ancien département d'Alger. Il se passe très peu de choses en Kabylie. Et l'essentiel des rencontres, des combats, se déroule dans la zone 1, qui sera plus tard la Vilaya 1, c'est-à-dire dans les Aurès, au sud, dans la zone sud du Constantinois. Et Zirout Youssef, qui a pris la succession du premier responsable de cette zone, eh bien, en janvier, va se retrouver isolé.
Son supérieur hiérarchique.
Son supérieur hiérarchique, qui était Rabah Bida, est injoignable. Il n'a aucun contact avec eux. Et il est un petit peu inquiet il va essayer de sauver en quelque sorte, comme il l'a dit lui-même,
la révolution. Voilà. C'est un homme pieux. Il a fait retraite avant de prendre ses décisions. Vous racontez qu'il fait précéder ses réunions de lecture du Coran. Et c'est non seulement sous les voix, les you-you des femmes, mais au cri de Allah Akbar qu'un certain nombre d'attaques vont se faire. Celle qui a retenu le plus l'attention de l'opinion française, à tort ou à raison, c'est celle d'El Alia, une mine de fer isolée au bout d'une piste de 3 kilomètres. Voilà un des participants de l'attaque qui s'exprime dans le film de Jean-Pierre Liédo, Algérie, histoire à ne pas dire.
On a démarré le vendredi dans la nuit et le lendemain on nous a dit on va à El Alia égorger les gourds, les non-musulmans.
Et qui vous a donné l'ordre de taquer ?
Ça. L'ordre est arrivé. Attaquer à Skikda ici comme ailleurs.
On vous a mis au courant avant le 20 ?
Non, on ne savait rien avant le 19. Le vendredi, on a démarré. Au nom du djihad, tous sont sortis, les femmes avec les you-you, les hommes avec de la dynamite, des haches, certains cassaient les portes, d'autres jetaient de l'essence sur les gourds et on tuait et on égorgeait au fusil, à la hache ou au couteau.
Et eux, ils étaient au courant ?
Non, pas du tout. Le secret était exigé et une obéissance totale à l'organisation. On a prêté un serment.
Serment, secret. Souvent, l'appel se fait, pas nécessairement à El Alia, parce que c'est une mine, à midi,
par le muezzin en haut du minaret.
Tout à fait, oui, oui. Et à l'heure de la prière de midi, qui est là aussi, c'est important, parce que c'est un détail qui montre donc la liaison avec la religion musulmane. Hein, donc ça se passe depuis un minaret, une mosquée, mais également donc à l'heure de la prière du dor, hein, qui est la prière d'avant le repas. Et là, exceptionnellement, d'ailleurs, ce jour-là, ils ont avancé la période du dor pour se donner, en quelque sorte, un peu de...
Oui, mais vous êtes très compétent maintenant, Roger Vétillard, mais vous racontez, par exemple, l'histoire dans une autre localité, à Ain Abid, d'une Française qui entend l'appel du muezzin. Tiens, on n'est pas vendredi, pourquoi une fois, deux fois, trois fois? Mais personne ne sait dans la famille ce qu'il dit. Parce que vous ne connaissez pas beaucoup l'arabe, vous, les Européens d'Algérie.
Tout à fait. Enfin, donc, les Européens qui connaissaient l'arabe... eh bien, c'était ceux qui vivaient dans les campagnes, qui vivaient au contact des Arabes, enfin des musulmans, parce qu'il n'y avait pas que des Arabes, il y avait aussi des Kabyles, hein, avec une langue différente. Hein, donc, alors que dans les villes, c'est un petit peu le contraire. Beaucoup de gens que j'ai connus, moi, à l'époque, et qui étaient en classe avec moi, des indigènes, des autochtones, ne parlaient pratiquement plus l'arabe. Hein, et actuellement, ils ont été obligés de quitter l'Algérie parce qu'on leur impose la langue arabe.
Oui, enfin, on avait aussi imposé le français
tout à fait.
Sans faire sa place à l'arabe. Mais ne discutons pas. Revenons à l'armement des gens et à la composition des groupes. Bon, la LN de Youssef Sigoud, c'est pas beaucoup d'hommes. Et là, celui qu'on a entendu témoigner, c'est quelqu'un qui vient d'Indouar, d'une Mechta, des environs, et qui fait partie d'un groupe encadré par quelques hommes du FLN.
Tout à fait. Dans chaque localité, il y en a 46 comme ça au moins, eh bien, il y a un groupe de fellahs, comme on dit, de paysans, de villageois, qui c'est des civils, même souvent des enfants, des jeunes, enfin des adolescents, qui sont encadrés. Alors, ils sont de plusieurs dizaines, des fois plusieurs centaines. À Philippeville, ils seront au moins 3000. Encadrés par quelques hommes en armes, en uniforme.
Philippeville, comment ça se passe? Parce que ça, c'est une ville de 70 000 habitants dont l'idée du FLN est de la mettre sous contrôle, au moins en partie, pendant quelques heures.
Voilà,
toujours à partir de midi.
Le but de Zirout, Youssef, c'est de faire en sorte que la presse soit obligée d'en parler. Et donc, on le fait en plein jour. On le fait dans des villes importantes, à Constantine aussi, mais surtout à Philippeville. Hein, c'est là où il y a eu les événements les plus significatifs. Plusieurs milliers de personnes ont envahi les rues de Philippeville, et encadrées par quelques dizaines d'hommes, simplement, armés.
Ils s'en sont pris à une caserne, gendarmerie,
voilà.
À l'aéroport.
Voilà, ce qu'il faut dire, c'est que l'armée était prévenue.
Pardon.
L'armée était prévenue.
Mais attendez, là on a entendu un témoin dire c'est le secret.
Oui.
L'armée a été prévenue.
Ah oui, tout à
et
fait.
Et elle a laissé attaquer le village d'Alalia.
Elle a laissé attaquer le village d'Alalia.
Les casernes de
Alors,
Philippeville.
Ce que disent les militaires qui ont écrit là-dessus, ou comme le général Osares d'ailleurs.
Alors capitaine.
C'est que il fallait surtout pas que le FLN, que la LN, qui était la branche armée du FLN, soupçonne qu'il y ait
des fuites.
Hein.
Et ce, au prix d'un certain nombre de morts, tout de même, et d'exactions dont on peut se demander si certains chefs militaires français ne les pressentaient pas, mais ça leur permettrait d'avoir des renforts, peut-être.
Peut-être, ils pensaient un peu ça, pour certains, ça a été dit. Ce qu'on pensait aussi, c'est que ça serait un moyen d'arrêter, en quelque sorte, par une répression importante, le mouvement. Hein, donc c'était plus une opération militaire, et le côté politique des choses a été complètement ignoré.
Et le côté humain?
Un jour où mon peloton était de garde, en somme, il a fallu aller dégager une ferme qui était tenue par des Arabes, hein, des paysans arabes. C'était des gens qui étaient pro-français. On est allé dégager cette ferme qui avait été attaquée, qui était en train de brûler quand on est arrivé. Ça a été quelque chose de marquant, puisqu'on a retrouvé toute la famille massacrée. Et j'ai une image qui m'est restée à vie. Je crois que c'est celle qui m'a le plus impressionné. Il y avait un bébé de 3 mois. Il l'avait assommé en lui fracassant la tête sur le mur. Sa cervelle était restée collée sur le mur. Là, je vous assure que ça a été pour moi, le déclenchement final qui fait que on ne peut pas avoir de pitié pour ces gens-là.
On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de bruit dans ce village. Et Notre lieutenant nous a dit, bon, ils ont dû recevoir l'ordre d'évacuer le village. On s'est approché, les habitants étaient toujours là, mais ils étaient tous par terre, la gorge ouverte. Parmi eux, il y avait des enfants, et j'ai même noté qu'il y avait un petit chien qui avait eu la gorge ouverte, lui aussi. Alors là, je peux vous dire que d'abord, il y a eu des réactions physiques. C'était un sous-homme et on vomissait.
Ces témoignages sont recueillis dans un film qui s'appelle L'ennemi intime de Patrick Rothman, dont il ne faut retirer aucune qualité, mais qui va mêler souvent des propos relatifs à des événements différents. Juste un mot de votre méthode, Roger Vétillard. Vous êtes agacé quand sur le net, il y a des images d'août 55 pour illustrer Sétif 1945 et vous notez aussi souvent des confusions. Dans les
tout
témoignages,
à fait, oui.
Dans l'utilisation des témoignages.
C'est tout le problème de l'utilisation par les historiens du témoignage. Les gens, en toute bonne foi, vont nous raconter des choses qui ne se sont pas passées, mais parce que la mémoire est différente de l'histoire. Et souvent, ben, ça a été suggéré par d'autres. C'est exactement ce qu'on vient d'entendre. On vient d'entendre un monsieur qui disait qu'il y avait un enfant qui avait été le crâne fracassé. Bon, j'ai fait toutes les archives, tous les rapports de police, de gendarmerie, tous les témoignages que j'ai pu recueillir, ça ne s'est jamais passé. Il y a eu des horreurs, mais il n'y a pas eu celle-là, par exemple.
Tout ça est recensé très précisément, localité par localité, dans votre livre chez Rive-Neuve, 20 août 1955. Le chanteur qu'on va entendre aujourd'hui est du Constantinois, c'est cher Raymond. Il a commencé à enregistrer sur disque après le 20 août 1955 et il est mort, sans doute assassiné, par le FLN dans un souk de Constantine, mais beaucoup plus tard, en 1961.
الغجلان ونظرتي لا ما حضرت الغجلان واعتدلت من قديل أغصاني يا ليل ليل يا ليل يا ليل تيلي تيلي دلت من قصديه أغصانه يا لا 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 جديت وشادين يسبي الورى في التان وشادين يسبي الورى الفتان إذا ما شاء كان عليه الآن يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 جريت سرطان إذا ما شاء كان عليه
La marche de l'histoire Jean Lebrun sur France Inter.
Plus tard, cher Raymond, qu'on entendait ici chanter à l'université de Constantine, sera éliminé. C'est bien évidemment pour éclaircir les rangs des Juifs d'Algérie, des interlocuteurs potentiels pour des autorités françaises ou des gêneurs pour les plus radicaux du FLN. Le FLN savait ce qu'il faisait, ou du moins le leader de la zone 2 savait ce qu'il faisait en août 55. Comment va réagir Jacques Soustelle, le gouverneur général dont vous parliez de la politique d'intégration tout à l'heure, Roger Vétillard? Il avait déjà subi bien des désappointements avant août 55.
Oui, bon, parce que donc sa politique
d'intégration
n'était pas bien reçue par tous les camps, toutes les populations d'Algérie.
Parce que les Européens trouvaient que ils allaient devenir minoritaires.
Tout à fait.
Dans le corps électoral.
Voilà. Et puis les musulmans, les indigènes ne souhaitaient pas majorité être devenir des Français comme les autres, etc. Enfin, donc il y avait beaucoup de difficultés et les déjà donc les rencontres qu'il y avait avec un certain nombre de factions étaient plus ou moins
suspendues. Et Montaigne avait déjà démissionné avant les événements d'août 1955. Voici le récit qui minimise les choses, évidemment, de Pathé Journal dans les cinémas de France en août, fin août 1955.
Des bandes de rebelles sont chassées des voies de communication que la troupe contrôle, mais elles ont au préalable incendié des récoltes, des véhicules et des installations. À Philippeville et dans le Constantinois, elles ont essayé de se livrer à des actions d'envergure, alors que le gouverneur général Soustelle venait d'assister dans le sud à une cérémonie à la mémoire des 22 Sahariens tués dans les combats de Sidi Aoun contre les terroristes.
Il fallait faire face à une agression. Au mois de septembre 1955, nous avons saisi dans les cavernes des montagnes Nemencha les archives de Shihani Bashir, qui était un des chefs du FLN. Et là, nous avons trouvé les lettres de Ben Bella émanant de celui qu'il appelait le grand frère, qui était Nasser, et qui donnait l'ordre, par exemple, il faut tuer tous les gardes champêtres, tous les gardes forestiers. Pourquoi ? Parce que le garde forestier était un des rares représentants d'une autorité dans ces immensités. Ou bien, il faut tuer les bourguibistes. Les bourguibistes, c'était les musulmans qui voulaient négocier avec la France. Et on était bien obligé de faire face à une attaque aussi déterminée.
Soustelle, plus tard, au micro de Frédéric Mitterrand. Enfin, ancien responsable des services secrets, il ajoute peut-être du complot à ce qui est déjà du complot. Vous n'avez pas retrouvé ces archives.
Je n'ai pas retrouvé, j'ai essayé de trouver.
Ni dans celle du gouverneur.
Je ne sais pas, peut-être.
Ni dans celle de l'armée.
Peut-être que je suis pas allé dans le bon endroit, quoi. Enfin, donc, mais j'ai quand même passé beaucoup de temps sur les archives du gouvernement général de 1955.
Soustelle imagine aussi un complot communiste. Il va faire interdire le Parti communiste algérien, ce qui va provoquer le changement d'attitude du Parti communiste français à Paris. Il organise une grande répression.
Tout à fait, tout à fait. Là, Soustelle va, dès le 21 août, va se retrouver dans la région de Constantine, ils vont se retrouver à Philippeville, dans les hôpitaux, il voit les blessés, il est très impressionné par ce qu'il voit, parce que il y a des dizaines et des dizaines de blessés qui sont dans les couloirs, dans les il dit, bon ben, maintenant c'est fini, on ne discute plus, ils veulent la guerre, ils auront la guerre. Hein. Et toutes les discussions qu'il pouvait avoir, toutes les tentatives de réconciliation qu'il pouvait avoir, disparaissent, sont interrompues.
C'est ce que souhaitait le chef de la zone 2 du FLN. Une répression que vous dites disproportionnée, démesurée. Allez, moi je vous propose un autre adjectif qui a été utilisé par Max Lejeune, qui n'était pas un sympathisant du FLN. Aveugle.
Aveugle, tout à fait, oui. Oui, de toute façon, donc on a détruit des mechtas. Des mechtas, ce sont des petits villages. Hein, donc, on a détruit des maisons sous prétexte qu'il pouvait y avoir quelquefois des rebelles, comme on disait à l'époque, pouvaient avoir abrité quelques heures des gens qui s'étaient révoltés. Et donc là, on a fait un peu donc dans le.
Il n'y a pas de honte en histoire, docteur. Il y a l'armée, mais il y a aussi.
Il y a aussi le pouvoir civil.
Puis il y a aussi les Européens.
Alors, il y a eu donc, notamment dans la région de Philippeville, hein, où ils sont laissés à eux-mêmes, et également dans la région d'Aïn Abid, là, on a des témoignages, même des documents, des rapports de gendarmerie qui sont tout à fait clairs. Quoi.
Dans le film de Jean-Pierre Liédot, encore Algérie, histoire à ne pas dire, Aziz Mouats.
Nous avions les meilleures relations du monde avec les colons qui étaient nos voisins. Et mon oncle Yazid, qui faisait partie des leaders du FLN de la région, s'était engagé pour qu'il n'y ait pas d'exaction chez ces familles-là, puisque nous avions les meilleures relations du monde avec eux. Et nous ne comprenons pas jusqu'à ce jour, mon questionnement est de savoir pourquoi, alors que nous, on avait tout fait pour que nos voisins colons ne soient pas inquiétés, pourquoi, trois jours après les événements du 20 août, nous avons été, à notre tour, rasés, massacrés, et tous les hommes valides ont été pris par la troupe à Osares, puisque c'est lui qui était responsable de cette répression. J'ajouterais même que, jusqu'à présent, moi, je ne sais pas où sont enterrés mon père, mes deux jeunes oncles, qui avaient 14 et 17 ans, mon grand-père, et tous les autres membres de la famille qui ont été pris ce jour-là, gratuitement.
Vos témoins sont européens, algériens tout aussi bien. Vous avez eu contact avec Aziz Mouats.
Tout à fait, enfin, donc en contact épistolaire, hein, donc pas direct. Aziz Mouret est maintenant un universitaire, il est professeur de botanique à l'université où il était, je ne sais pas s'il l'est toujours, à Daïn Temouchent. Bon, ce qu'il ne dit pas, il dit dans son témoignage que la famille qui avec laquelle il était en relation, sa famille était en relation, a été épargnée, mais bon, elle a peut-être été épargnée, mais 200 mètres plus loin, les Européens qui ont été rencontrés ont été tués. Bon, pourquoi ? Ben, vraisemblablement parce que il fallait pas, c'était pas l'heure. Il ne fallait pas attirer l'attention des forces de police. Donc, c'est vrai que ça aussi, ça pose le problème de la fragilité des témoignages.
Bon, juste, on ne va pas faire de bataille de chiffres. Les victimes du 20 août, oui. Vous les avez chiffrées à...
Alors, j'en ai, de façon certaine, reconnu 117. Il y en a 4 ou 5 qui sont possibles, mais je ne les ai pas retenus. Et puis, il y en a d'autres qui ont été signalés, par exemple, dans les rapports de gendarmerie. Il y en a qui ont été signalés dans des articles de journaux. Mais bon, je n'ai pas retrouvé les actes de décès, donc je ne les ai pas retenus.
Quant aux victimes de la répression, le ministère des Anciens Combattants des Moudjahidines d'Algérie verse à 12 000... Oui. Famille. Donc c'est le chiffre officiel du côté algérien.
C'est le chiffre officiel algérien. Bon, ils ont dit qu'ils allaient publier le nom de ces gens, mais ça fait 10 ans qu'ils doivent le publier, ils ne l'ont jamais publié. C'est que Monsieur Benoun, là, qui est un professeur scientifique, dans un article qu'il a, dans une série d'articles qu'il a fait dans El Watan, bien dit, ben, pourquoi ne les publie-t-il pas, quoi. Enfin, donc, en fait, vraisemblablement, on ne va pas faire bataille de chiffres.
Non, par contre, on peut dire que 61. Députés, sénateurs, conseillers de l'Assemblée de l'Union française, conseillers de l'Assemblée algérienne au Palais Carnot, algériens, ont démissionné. Enfin, ont publié une motion qui préparait la fin de l'Assemblée algérienne. Que Ferhat Abbas, qui aurait pu être un interlocuteur, était signataire de cette motion des 61 et qu'il va rejoindre le FLN à la fin de 1955. Et puis du côté français, rappel des réservistes avec des manifestations, création de zones interdites, poursuite de l'état d'urgence, etc. La prochaine étape qu'on évoquera en janvier 1956, quand on continuera à suivre par anniversaire la guerre d'Algérie, c'est l'étape Camus, janvier 1956. Je voudrais que vous nous disiez un mot de votre position qui est quand même proche de celle que Camus avait essayé de maintenir contre vents et marées.
Bien Camus se considérait comme un Algérien, hein, ce que lui reprochent les Algériens d'aujourd'hui, en disant que ce n'était pas un Algérien, il était en Algérie, d'accord. Mais il voulait qu'il y ait une communication entre les différentes populations, les différentes communautés algériennes, entre les différentes sensibilités. Et il a tout fait pour ça, hein, jusqu'à cette proposition de trêve civile, en disant que ce n'est pas...
Qui date de janvier 56.
En disant, bon bien, c'est une guerre, donc, mais les civils doivent être épargnés. Et donc, il a été plus ou moins soutenu par certains indépendantistes, mais qui l'ont utilisé. Et il a été attaqué par certains pieds noirs, donc, qui l'ont, comme Andrea Chiari, notamment, qui a été...
Ils l'ont conspué au moment de sa réunion, son dernier voyage à Alger.
Tout à fait.
Merci à vous, aux éditions Rive-Neuve. Donc, je rappelle votre livre, Roger Bétigard, sur le 20 août 1955.